Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un tableau du peintre pré-raphaélite John Everett Millais, Ophélia. C'est un tableau de dimension assez moyenne, de 100 cm sur 70 cm environ, et qui se trouve à la Tate Britain de Londres. Se livrer à l'exercice de description pour ce tableau n'est pas si facile parce qu'il fourmille de détails, mais je vais quand même essayer. D'abord, au premier plan, on aperçoit un bosquet de roseaux, et puis ensuite la vase dans des tons verts. Située à peu près au milieu du tableau, se trouve une jeune fille, sachant que seulement son visage, sa poitrine, ses mains et une partie de sa robe sont immergées, ainsi que quelques fleurs. Elle flotte dans le ruisseau, et il faut savoir que l'œuvre doit se lire de gauche à droite, selon le sens de lecture dans l'Occident. Derrière elle apparaît tout un foisonnement de fleurs et de plantes, un saule à gauche avec un petit rouge-gorge, et puis des orties aussi, des pâquerettes. J'ai choisi ce tableau parce qu'il m'a accompagnée pendant tout mon parcours universitaire. D'abord, je l'ai vu en noir et blanc pendant mes cours d'hypocagne, il y a assez longtemps, mais ce n'était pas un tableau qui m'avait énormément frappée. En réalité, la première fois que je l'ai vu en couleur, lors de ma visite à la Tate en 2006, c'est vraiment là que je me suis rendu compte la répercussion que cette peinture pouvait avoir sur le spectateur. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans mon mémoire et dans mes études. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière pour vous expliquer ce que c'est que le pré-raphaélisme et comment le peintre John Everett Millais s'est inséré dans ce mouvement artistique. On est à Londres, en 1848. Millais, c'est un jeune artiste assez prodige qui rencontre ses camarades sur les bancs de la Royal Academy, là où il étudie depuis le début de son adolescence, en réalité. Il décide, avec ses autres camarades, de fonder une confrérie, la confrérie pré-raphaélite. Leur modèle, ce sont les artistes d'avant Raphaël, qui lui était enseigné comme le grand modèle d'émulation sur les bancs de l'école. Et ce qui plaisait aux artistes pré-raphaélites à l'époque, c'était les couleurs éclatantes, l'absence de gradation dans la lumière ou dans l'ombre, ainsi que l'absence d'organisation en plan fixe de la composition. Il s'inspirait aussi des manuscrits du Moyen-Âge. Tout cela, on peut l'apercevoir sur ce tableau d'Ophélia. En réalité, pour préparer ce tableau, il fallait l'enduire auparavant d'un enduit blanc et d'un vernis sur la surface qu'on devait appliquer à plusieurs reprises. Il fallait laisser le tableau mouiller afin d'appliquer le dessin préparatoire qui était assez difficile à déceler. Et puis ensuite, lorsque les couleurs étaient-elles appliquées, elles devaient rester pures. Les pré-raphaélites œuvrent à un moment où toute une série d'innovations dans le domaine des arts visuels se réalisent. On a par exemple, en 1841, la création des premiers tubes de peinture et aussi la création de plusieurs nouveaux pigments qui arrivent sur le marché. Ce qu'on peut voir dans Ophélia, c'est tout ce foisonnement de verts émeraudes, qui sont toujours aujourd'hui presque aussi éclatants qu'ils l'étaient à l'époque où le peintre a réalisé ce tableau. D'ailleurs, tous les éléments sont traités avec la même intensité. Il n'y a pas une organisation très distincte en plan, et c'est vraiment l'aspect photographique de la toile qui ressort de ce tableau. Les pré-raphaélites, et Millais y compris, peignaient avec des pinceaux d'aquarelle pour avoir ce rendu très fin. Chaque brin d'herbe, quand vous regardez ce tableau, chaque nervure de feuille, chaque pétale de fleur est peint avec une infime précision. Et lorsqu'ils voulaient réaliser le paysage, ils allaient peindre, avant même les impressionnistes, en plein air, sur le site qu'ils voulaient représenter. Ici, nous sommes devant un des endroits de la rivière Ewell, pas très loin de Londres, où Millais s'est rendu avec son compagnon William Holman Hunt pour peindre au printemps 1851. Il ne réalise pas des esquisses ou du travail sur leur mémoire, qui était très mauvaise chez Millais, et dans la biographie de son père, le fils de John Everett Millais essaye de retranscrire les difficultés que le peintre avait à réaliser son tableau en plein air et la façon dont il se plaignait des intempéries. Je vais maintenant me concentrer un peu plus sur la modèle dont l'identité est connue. Parce que là, c'est la deuxième partie du tableau qui, elle, a été réalisée en atelier. Elle s'appelle Elisabeth Sidal et c'est une modèle qui entre dans le cercle pré-raphaélite en 1849 alors qu'elle fait connaissance avec un de leurs amis en tant que couturière. Pouvoir poser pour ce tableau, pour Elisabeth Sidal, c'est un moyen de rentrer dans le monde de l'art car c'était quelqu'un qui n'avait pas de formation artistique, qui désirait en acquérir une. Et elle était appréciée en tant que modèle par ses peintres parce qu'elle était grande, rousse, la taille peu marquée, les yeux bleus, les paupières lourdes. Et en réalité, c'était un type de modèle qui était très différent des canons de beauté de l'époque victorienne à l'époque. On préférait des femmes qui étaient plus petites, avec la chevelure brune attachée, séparée en deux sur le haut du crâne. Et ici, Elisabeth Sidal pose avec une robe que le peintre avait trouvée dans une boutique d'antiquité pour elle. Elle pose dans une baignoire, tout habillée. Et puisque nous sommes à l'hiver 1852, le peintre avait trouvé pour elle un dispositif ingénieux, à savoir qu'il avait placé des lampes à huile en dessous de la baignoire pour garder l'eau chaude. Apparemment, les lampes s'éteignirent à un moment et le peintre ne s'en serait pas aperçu. Donc le modèle prit froid et il dut rentrer en conflit avec le père de la modèle qui le traduisait en justice. Et le peintre, John Everett Millais, dut payer au père de la modèle une somme assez conséquente jusqu'à la fin de sa maladie. Il faut savoir que ce rôle d'Ophélia que Elisabeth Sidal a incarné s'est confondu avec la biographie de celle qui était aussi artiste et modèle. Elle incarne ici la jeune fille en fleurs, la muse tragique qui exprime son dernier chant avec ses lèvres entrouvertes et elle se confond avec l'onde en faisant corps avec l'élément aquatique et les végétaux. La symbolique et la narration de ce tableau sont prévalentes. C'est une œuvre qui est à décrypter et qui invite le spectateur à se concentrer sur toute la multitude des éléments du tableau. La scène se passe hors champ. C'est une scène qui est décrite dans la pièce de William Shakespeare, Hamlet, par la reine Gertrude, acte 4, scène 7, mais qui n'avait pas tellement d'importance à l'époque. Or, ici, le peintre décide de mettre en avant le patrimoine national littéraire, mais aussi l'héroïne de la pièce. Il y a aussi tout un langage des fleurs qui se déploie sur ce tableau. Le saule, par exemple, à gauche de la composition, représente l'amour esselé, le pavot somnifère, la mort, les pâquerettes, la jeunesse. Les pensées sont assez évocatrices pour qu'on explique à quoi elles font référence. Et enfin, le myosotis, en anglais, s'appelle « forget me not », qui veut dire « ne m'oublie pas » et qui fait référence au souvenir. Toutes ces fleurs sont mentionnées dans le monologue d'origine de la reine Gertrude. C'est une œuvre qui acquiert une très bonne réception à l'exposition de la Royal Academy au printemps 1852 et qui aura plus tard une répercussion considérable dans l'art anglais. Elle devient même l'œuvre de référence et l'emblème de la peinture pré-raphaélite. À la fin du 19e d'ailleurs, on se plaignait qu'il y avait trop d'Ophélie sur les murs des galeries londoniennes. Lorsqu'elle est présentée en France, à l'exposition universelle de 1855, Gautier dit d'Elisabeth Sidal « c'est une poupée qui se noie dans une cuvette ». Vous comprendrez que ce n'est pas franchement le modèle qui a attiré l'attention du romancier et du critique littéraire, mais plutôt le paysage. Il dit dans sa critique des Beaux-Arts en Europe que lorsqu'on voit le tableau de Millais de loin, on ne comprend rien. Mais approchez-vous et là, vous remarquerez la multitude et le détail botanique de l'œuvre. C'est pour ça qu'il invite le spectateur à se rapprocher. Plus tard, au début du XXe siècle, cette œuvre est redécouverte par les surréalistes, notamment Salvador Dali. et ce seront eux qui véritablement décideront de porter le modèle Elisabeth Sidal au nu. Cette œuvre reste très populaire aujourd'hui. D'ailleurs, dans la campagne de 2013 d'affichage pour la diffusion des œuvres britanniques, on a demandé à plusieurs spectateurs d'établir un choix, une liste, et c'est Ophélia qui est arrivée en premier et qu'on diffuse aujourd'hui sur toutes sortes de supports, qu'ils soient numériques, mais aussi sur format papier, par des cartes postales et par toute une sorte de produits dérivés que vous trouverez à la boutique du musée de la Tate Britain. Vous trouverez aussi cette œuvre citée visuellement dans la photographie, mais aussi le cinéma, comme l'affiche du film de Lars von Trier, Mélancolia.